Vous écoutez France Musique.
Il est tellement ancré dans la vie musicale française et parisienne qu'on a l'impression qu'il existe depuis toujours. Pourtant, au regard de l'Opéra de Paris, de l'Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Élysées est un théâtre récent, un jeune centenaire, dirons-nous. Voilà tout juste un siècle, en effet, que celui-ci ouvrait ses portes au 15 avenue Montaigne, dans un quartier jugé plutôt excentré pour l'époque. Avec sa façade art déco, ses bas-reliefs d'Antoine Bourdelle et sa coupole, signée Maurice Denis, abritant une salle à l'italienne de 1900 places, le Théâtre des Champs-Élysées fut révolutionnaire dès sa conception, car entièrement construit et réalisé grâce au béton armé. Révolutionnaire aussi par sa programmation, tant ce palais philharmonique rêvé par son fondateur Gabriel Astruc allait devenir peu à peu l'un des symboles de la modernité musicale, chorégraphique et dramatique, puisqu'entre ses murs, rappelons-le, voisinent la Comédie et le studio des Champs-Élysées, ouvert en 1923. En un siècle, le nombre de créations et de premières données aux Champs-Élysées est au moins aussi impressionnant que la brochette d'orchestres, de troupes et d'artistes que l'institution a invitées et souvent fidélisées, du Rubinstein à Sokolov, en passant par Cluytin, Singelbrecht, Bernstein, Ozawa, Jansons, Gergiev et tant d'autres. Classé au monument historique en 1953, le théâtre devient, 16 ans plus tard, propriété de la Caisse des dépôts, qui lui apporte aujourd'hui environ un tiers des 20 millions d'euros de son budget. Aujourd'hui, 30 minutes d'entracte s'arrête au Théâtre des Champs-Élysées pour remonter le temps et évoquer cette bonne salle, cette salle qui chante, pour reprendre l'expression de son architecte Auguste Perret. Voyage en compagnie de Marielle Duvigneau et de nos deux invités, Nathalie Sergent et Christian Merlin. Un extrait de l'ouverture de Benvenuto Cellini de Berlioz par l'orchestre de l'ORTF dirigé par André Cluytens, l'un des chefs les plus fidèles, parmi les plus fidèles de l'histoire du Théâtre des Champs-Élysées. Aujourd'hui, sur France Musique, dans 30 minutes d'entracte, on parle de ce centenaire du Théâtre des Champs-Élysées qui a ouvert ses portes il y a un petit peu plus d'un siècle, un siècle et 8 semaines, je crois, si j'ai fait les bons comptes. L'occasion, c'est la sortie d'un livre absolument colossal qui s'appelle « 3 scènes et une formidable aventure », un livre de combien précisément, disons, oui, presque 700 pages, 650 pages, quelque chose comme ça, qui retrace alors toute l'histoire du théâtre, mais aussi de la comédie et du studio, puisque le Théâtre des Champs-Élysées, c'est 3 salles, même si la plus connue, la plus prestigieuse, c'est peut-être le théâtre, le plus grand en tout cas. On parle de ce Théâtre des Champs-Élysées, de ce centenaire, en compagnie de Nathalie Sergent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des éditions et du multimédia au Théâtre des Champs-Élysées. C'est vous qui avez supervisé et signé quelques articles dans ce livre sur le Théâtre des Champs-Élysées. Et à vos côtés, l'un des contributeurs que les auditeurs de France Musique connaissent bien, notamment ceux de l'émission, puisque vous êtes venu il y a quelques semaines, Christian Merlin, bonjour.
Bonjour Jérémy.
Vous êtes journaliste critique au Figaro et vous avez notamment signé le papier sur Cluytens, sur l'Orchestre National, qui est le nouveau nom de l'ancien orchestre de l'ORTF, et puis Abado, notamment... Les noces de Martinotti aussi, c'est la toute fin de ce livre. Et puis, comme tous les samedis, bien entendu, Marie-Hélène Duvigneau, bonjour.
Bonjour.
Marie-Hélène, on n'a pas passé le sacre en ouverture. Je précise quand même que Benvenuto Cellini était au programme des festivités d'inauguration, on va dire. On l'a réentendu il y a quelques semaines lorsque Valérie Gergiev et son théâtre du Mariinsky est venu à Paris. C'est pour ça qu'on a entendu ce Benvenuto Cellini. Mais il y avait surtout... la création du Sacre du Printemps de Stravinsky avec le scandale que l'on sait lors de l'inauguration du TCE. Mais ce n'est pas le seul scandale qui s'est déroulé sous la coupole du Théâtre des Champs-Élysées, Marie-Hélène.
Oui, effectivement, la création de Désert de Varèse, 41 ans et demi plus tard, a été l'autre grand moment pour le moins tumultueux du TCE. C'est le 2 décembre 1954 qu'est donnée cette œuvre, la première œuvre musicale mixte pour instruments et bande magnétique. Désert, qui ne dure que 24 minutes, n'est qu'une petite partie du programme de la soirée. Le morceau est placé entre la grande ouverture en si bémol de Mozart et la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Une programmation des plus traditionnelles qui ne laisse en rien anticiper le scandale à venir de ce concert diffusé à la radio pour la première fois en stéréo. À l'approche du rendez-vous, rien ne prépare à l'événement dans les journaux. Pas d'avant-papier sur l'œuvre de Varèse. De retour cette année-là des États-Unis où s'il a réussi à faire jouer quelques œuvres, il n'a pas pu concrétiser ses idées. L'actualité en ce jeudi de décembre 1954 reste dominé par le transfert de Digne à Marseille de Gaston Dominici, condamné à mort le dimanche précédent. Autre titre dans la presse, la dégradation de l'état de santé du pape Pie XII ou encore la réception du prince régnier de Monaco par René Coty à l'Élysée. Mais rien sur le concert du Théâtre des Champs-Élysées. Et pourtant, alors que Pierre-Henri est à la bande magnétique et Hermann Scherchen à la tête de l'Orchestre National de Radiodiffusion, lorsque résonnent les premiers échos électroniques, c'est le choc. Huées, rires et colibés secouent la salle et les auditeurs derrière leur poste de radio. Un observateur pour qui Varèse est le Dominici de la musique va jusqu'à estimer que le compositeur devrait être fusillé sur le champ. Le commentateur radio du concert assurant pour sa part que grâce à Dieu, les fauteuils du Théâtre des Champs-Élysées sont solides arrimé au sol. Dans la presse du week-end suivant le concert, le Figaro parle du désert hurlant dont les borborythmes des appareils électroniques mêlés à l'orchestre ont excité l'hilarité puis l'indignation du public. Les défenseurs de Varèse se font rares, parmi eux un certain Pierre Boulez chargé de présenter l'œuvre à la radio ce 2 décembre 1954.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Pierre Boulez qui est présent dans l'histoire du théâtre. On écoutera un extrait du Sacre qu'il dirigeait en 1963, mais aussi, ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que Pierre Boulez, on l'a peut-être oublié, ça, et a dirigé une version concert d'Hippolyte et Aricide Rameau. Et oui, Rameau avec l'orchestre de l'ORTF. D'ailleurs, c'est une version qui est enregistrée. Vous la connaissez bien sûr, cette version, Christian.
Par cœur, évidemment. Non, mais Jérémy, il faut juste dire une chose, c'est que Pierre Boulez était très proche de Roger Desormières, qui a créé une partie de ses œuvres, dont Le Soleil des Eaux. Mm-hmm. Et on appelait Desormières des Eaux. Donc, ouais. Le Soleil des Eaux, c'était un peu facile. Et Desormières était passionné non seulement par la musique contemporaine, mais aussi par la musique baroque que l'on redécouvrait déjà à l'époque. Et c'est en hommage à Desormières que Boulez dirige ce Rameau. Finalement, mais il n'y reviendra pas beaucoup sa carrière.
Merci pour cette précision. Nathalie Sergent, avant de revenir un petit peu sur les grandes heures du Théâtre des Champs-Élysées, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement comment ce théâtre est sorti de terre ? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de construire le Théâtre des Champs-Élysées ?
C'est la volonté d'un homme, à l'origine, celle de Gabriel Astruc, qui était un producteur à l'époque et un éditeur de musique, qui était très déjà ancré.
C'est dans un caprice personnel, c'est ça ?
Non, c'est pas tout à fait un caprice, c'était vraiment une envie, et il s'est donné les moyens de réaliser cette envie, mais pas par caprice. Mm-hmm. Vraiment parce qu'il pensait qu'il y avait nécessité à Paris, en tout cas à cette époque-là, de créer une salle qui serait multifonction d'une certaine manière, sachant que le centre de la vie musicale et dramatique à Paris, pour l'instant, était quand même centré à la fois sur l'Opéra de Paris et l'Opéra Comique, donc du côté des grands boulevards, et sur les scènes des théâtres privés. Donc il a voulu, en effet, créer ce qu'il appelait lui-même le palais son palais philharmonique. Ouais. Donc il y a un premier projet qui a vu le jour dès l'année 1907 à peu près, qui était placé au rond-point des Champs-Élysées, qui était situé au rond-point des Champs-Élysées, d'où le nom en fait du théâtre, nom qui a été conservé malgré son déplacement avenue Montaigne. Pour des raisons diverses et variées, le terrain que Astruc avait d'abord obtenu au rond-point des Champs-Élysées lui a été retiré. Et avec l'aide d'un autre Gabriel Thomas, qui lui a été le financier dans l'affaire, ils ont trouvé ce terrain au bout de l'avenue Montaigne, qui était quand même en effet à la limite des portes de Paris à l'époque.
Et c'est pas là en tout cas que l'activité théâtrale, musicale se déroulait. En tout cas,
pas
du tout. Les théâtres, c'était à l'opposé absolu.
Ni l'activité mondaine d'ailleurs. Ouais. Hein, et vraiment, c'était vraiment les portes de Paris. Mais on peut dire que Astruc a eu du flair, en tout cas, en allant vers l'ouest parisien.
Alors, qui a financé ce théâtre ?
Plusieurs banquiers privés qui se sont réunis autour de la figure de Gabriel Thomas, qui était donc un homme assez absolument incroyable, qui était en fait ami avec Bourdelle et Maurice Denis, qui a été le premier président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel et le créateur du musée Grévin.
D'accord. Et c'est, oui, c'est bien parce que je crois que la soirée d'inauguration, il y avait des projecteurs qui étaient braqués, c'est ça, depuis
voilà, il y a eu
depuis la Tour Eiffel.
Le soir de la première, il y a en effet un projecteur qui a été lancé directement de la Tour Eiffel vers sur la façade du tout nouveau Théâtre des Champs-Élysées et dont on en a trace, par exemple, dans l'illustration du début avril 1913 qui reproduit cette gravure. Pour le centenaire, justement, on avait renouvelé cette opération lumineuse avec la Tour Eiffel.
Ouais. Alors, ce théâtre, en fait, correspondait, en tout cas, sa construction correspondait à une nécessité, finalement. On retrouve dans ce livre, il y a des phrases que je trouve très amusantes de Camille Saint-Saëns et de Pierre Lalo qu'on pourrait tout à fait appliquer à la Philharmonie de Paris aujourd'hui. Écoutez par exemple cette phrase. « Quand d'un bout du monde à l'autre, en Europe, en Amérique, des salles de concerts sonores, spacieuses, s'ouvrent partout aux manifestations de l'art musical, il est déplorable que Paris en soit dépourvu. » On met cette phrase dans la bouche de Pierre Boulez à propos d'une nouvelle salle à Paris. Ben c'est exactement ça.
C'est complètement ça. Ouais. Même pas seulement dans la bouche de Pierre Boulez. Je me souviens d'une réflexion du directeur du Concertgebouw d'Amsterdam, qui est à la fois une salle et un orchestre, à qui je demandais il y a quelques années « Mais pourquoi vous ne venez plus jouer à Paris ? Quand reviendrez-vous jouer à Paris ?» Il m'avait répondu « Quand vous aurez une salle de concert. » Donc, strictement rien de changé. Et je trouve surtout très intéressante la notion, la relativité de la notion de centre dans une ville. Mmh. Parce qu'à l'époque, l'avenue Montaigne était considérée comme excentrée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend sur la Philharmonie qu'on va mettre à la Villette ? Mais c'est trop loin, c'est trop loin du centre. Oui. Donc tout ça est très intéressant sur le plan de la relativité des choses.
Nathalie Sergent, est-ce qu'on a des archives ? D'où viennent les archives qui ont permis de bâtir cet ouvrage colossal sur le centenaire du Théâtre des Champs-Élysées ?
Alors, les archives étaient dispersées jusqu'à maintenant parce que le théâtre n'a pas eu cette politique, en tout cas comme un théâtre, comme peut l'avoir l'Opéra de Paris, de reconstituer au fur et à mesure son histoire. Donc ça a été un travail vraiment de Tintin et d'enquête, de rechercher. Je savais qu'il y avait des archives qui existaient, il fallait juste savoir où elles étaient. Au moment de la rénovation de 87, le théâtre avait été entièrement vidé pour des raisons de travaux, tout simplement. Et donc, à l'époque, ça avait été mis dans des caisses et localisé dans différents hangars de la Caisse des dépôts. Il fallait trouver le bon hangar, sachant que les personnes qui s'étaient occupées de ça en 85 n'étaient plus là. Donc, à force de chercher, j'ai fini par trouver, à Blois, en fait, les fameuses caisses, dans lesquelles il y avait, en effet, l'ensemble des archives, enfin, en tout cas, beaucoup d'affiches et beaucoup de programmes datant à partir de 1920.
Oui, Marie-Hélène.
Est-ce que ce sont des archives qu'aujourd'hui on peut éventuellement consulter, ou avoir accès ?
Alors, comme ces archives sont quand même une merveille, parce que c'est quand même rien qu'à les lire, ça évoque tellement de souvenirs ou de fantasmes pour les uns et pour les autres, Donc on a entrepris en effet un travail de numérisation de l'ensemble de ces archives, que ce soit les affiches ou les programmes de salle. Et depuis 15 jours, c'est consultable par tout le monde sur un portail, sur un site qui s'appelle tout simplement tce-archive.fr.
Alors c'est noté. Avant de revenir, on va faire une petite publication sur les grandes heures, enfin les grands moments du Théâtre des Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on a eu comme réaction immédiate dans la presse ou de la part du public sur ce bâtiment ? Je rappelle qu'il est l'un des premiers, le premier théâtre, peut-être le deuxième, je crois, construit entièrement en béton. Sur la décoration, sur l'architecture, quelles ont été les réactions des Parisiens à l'époque ?
Alors c'est le premier qui est construit. Oui. C'est le premier bâtiment public construit en ciment armé ou en béton armé, oui. Parce que les spécialistes se disputent le terme. Avant, les frères Perret avaient construit des habitations. Ils avaient expérimenté en tout cas la technique sur des habitations, mais jamais sur un bâtiment de cette envergure devant recevoir du public.
Et il était bien reçu ou pas ?
Il y a eu différentes controverses. Alors, il y a eu ceux qui détestaient l'aspect très strict de la façade de Bourdelle.
Hein, parce qu'il faut elle est austère. Hein,
il faut rendre à Bourdelle son Bourdelle, si je puis dire, puisque le dessin de la façade est vraiment celle d'un sculpteur et celle de Bourdelle. En revanche, la modernité des équipements et la convivialité de la salle, là, ont vraiment charmé tout le monde.
Le début du Sacre du Printemps, Stravinsky, c'est Pierre Boulez qui dirige l'Orchestre National de la RTF le 18 juin 1963 et c'est le premier Sacre du Printemps de Pierre Boulez qui en fera son cheval de bataille, enfin là c'est le cheval de bataille.
C'est même Jérémy qui a contribué à le lancer comme chef d'orchestre symphonique. Il était connu dans la vie musicale française à ce moment-là plutôt comme compositeur et organisateur de petits concerts de musique contemporaine et là on a découvert qu'il savait aussi se débrouiller et comment face à un grand orchestre. Ouais.
Il s'est passé tellement de choses au Théâtre des Champs-Élysées que c'est impossible, même en plusieurs heures, de résumer, de parler de tout ce qui s'est déroulé. Mais si on devait garder, la période la plus marquante peut-être de l'histoire du théâtre, quelle serait-elle, Nathalie Sergent, pour vous ?
Pour moi, ça serait les années 20.
Oui. L'entre-deux-guerres,
début de l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres.
Avec, à tout point de vue d'ailleurs, musicalement.
Avec la période par exemple des concerts Straram, oui. Très très importante. Oui. Et chorégraphiquement,
les ballets suédois.
Avec les ballets suédois. Et puis l'arrivée quand même des grands récitalistes aussi, oui. À cette période.
Les débuts de Rubinstein, un petit peu plus tard peut-être. La revue nègre.
Rubinstein, 1923.
Et
puis des grandes compagnies étrangères aussi, il faut bien rappeler ça. Et même qui souvent était en avance sur l'opéra de Paris. La première fois qu'on entend des opéras de Wagner en allemand, par exemple. Ouais. Un Ring complet en 1929 par la troupe du Festival de Bayreuth. 1928, Bruno Walter, ouais. Qui vient donner Mozart avec la troupe de l'opéra de Vienne. Ouais. Dès 1914,
et qui joue Così fan tutte, qu'on n'entendait jamais.
Mais exactement, ouais. Qu'on considérait comme un sous-Mozart, un Mozart raté, frivole, superficiel. 1914, quand même, Parsifal, à travers les grands opéras de Wagner, bravant l'exclusivité de Bayreuth, etc. C'est considérable.
Donc c'est le théâtre des Champs-Élysées qui a, entre guillemets, un petit peu révolutionné la vie musicale parisienne.
Moi, je le pense. Je pense vraiment qu'on était dans un besoin de modernisation, qu'il y avait un essoufflement de la vie musicale et de la vie artistique d'une manière générale. Et ça a vraiment été, dès le début, un théâtre qui s'est défini comme un théâtre de pointe, finalement, et qui allait montrer, ouvrir des voies, ça, certainement.
Dès le départ, dans le projet d'Astruc, il y avait cette place, cette volonté de faire du théâtre. Au sein du théâtre des Champs-Élysées avec la comédie.
Oui, oui. Ouais. Dès le départ, la comédie a été complètement insérée dans le projet, même si Astruc ne s'intéressait pas beaucoup au théâtre. Hein. Et donc, le premier directeur, Léon Poirier, a lui aussi subi la faillite de la grande salle aussi rapidement.
Oui, parce qu'Astruc, on le précise, a fait faillite au bout de la première saison. Hein.
Au bout de 6 mois.
6 mois, voilà. Voilà.
Ouais. Il y avait des précédents, premier festival de Bayreuth, 1876, tout le monde est content, et on ferme tout de suite, hein, faillite immédiate. Ouais.
Et alors, dans l'histoire du théâtre, il y a eu très peu de directeurs. Je crois qu'il y a eu seulement Jacques Héberto qui a chapeauté à la fois le théâtre des Champs-Élysées et la comédie.
C'est le seul, en effet, qui a chapeauté l'ensemble des salles, et qui a dirigé, en tout cas, l'ensemble des salles. Il est arrivé en 1920, il est reparti en 1928, au moment où Straram, lui, a repris derrière. Et en effet, il a vraiment... c'est le seul qui ait conçu cela vraiment comme un ensemble. Oui. Ensuite, en effet, les directions de salles ont été... séparés.
Et alors ce studio des Champs-Élysées, cette petite salle qui ouvre en 1923.
Alors le studio, c'est une histoire formidable, parce qu'au départ c'était une galerie de photos. Le studio n'existait absolument pas. Et puis très vite, Héberto a compris qu'il lui fallait une plus petite salle, parce qu'il a beaucoup misé sur l'alternance. Hein. Mmh. Et il faut voir que les années Héberto, c'est les années où de Georges Pitoëv, de Firmin Gémier, de Batty, donc il y avait vraiment une équipe formidable. Et il a très vite compris qu'il lui fallait une troisième salle plus petite pour expérimenter d'autres répertoires. Et en fait, il a fait appel à un jeune régisseur de théâtre qui avait fait le même travail au Vieux Colombier. Et ce jeune régisseur, c'était Louis Jouvet. Et c'est comme ça que Louis Jouvet est arrivé avenue Montaigne. D'abord pour concevoir les plans du studio, ce qu'il a fait. Et puis très vite, comme il était déjà comédien, Héberto, qui l'avait repéré, l'a mis dans plusieurs distributions et puis très vite il lui a confié
Knock,
une mise
notamment
en scène,
la création de Knock. Aujourd'hui, la Comédie des Champs-Élysées dépend également et propriété également de la Caisse des Dépôts comme le théâtre.
Alors, ou un statut particulier. C'est le bâtiment qui est la propriété de la Caisse des Dépôts et chacune des entités, des salles, en tout cas le Grand Théâtre comme la Comédie, sont des théâtres privés. Où la Caisse des dépôts a des parts dans le Grand Théâtre.
Mmh. Très bien. Le Théâtre des Champs-Élysées ferme, pour revenir un petit peu sur l'histoire, durant la Première Guerre mondiale. Qu'en est-il durant la Seconde Guerre mondiale? Qui veut répondre?
Oh, l'histoire a tendance à s'immobiliser à ce moment-là, on va dire, sauf que le théâtre continue à servir notamment pour des enregistrements. Oui. Et là, on a une activité assez considérable au niveau de l'enregistrement sonore, hein, radio et disque. Mais on peut dire qu'il y a effectivement une sorte de parenthèse à ce moment-là.
Oui, il y a l'Orchestre de Radio Paris quand même.
Il y a quand même l'Orchestre de Radio Paris, voilà, le grand orchestre de Radio Paris qui s'installe.
Qui est l'orchestre
de studio.
Qui est un instrument de propagande.
Pour le régime de Vichy, entendu. Ouais. Oui, ça devient vraiment un lieu d'enregistrement pour le régime de Vichy, clairement.
Une question peut-être un peu stupide, hein, vous n'en voudrez pas, mais vous qui avez remonté l'histoire du Théâtre des Champs-Élysées, qu'est-ce qui a le plus changé en 100 ans dans ce théâtre ?
C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de... D'abord, il y a beaucoup d'invariants, je dirais, dans ce théâtre. C'est un théâtre qui a une histoire et qui l'a sans cesse cultivée tout en la faisant évoluer. Et beaucoup d'artistes qui s'y produisent soulignent qu'ils sentent cette histoire. Quand Simon Rattle dit toujours, quand je dirige Debussy ou Ravel au théâtre des Champs-Élysées, je sens qu'eux-mêmes y ont été et que leur musique y a été créée. Donc, il y a cet élément-là. Ce qui a évolué, je dirais, c'est que ça a été un théâtre... au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus fait de productions maison, et notamment au niveau lyrique, car il faut rappeler que ce n'est pas seulement une salle de concert, mais véritablement un théâtre d'opéra qui produit des spectacles lyriques. Pendant longtemps, ces spectacles lyriques étaient surtout le fait de compagnies invitées, et souvent de compagnies étrangères d'ailleurs, et je dirais que depuis 25-30 ans à peu près, il y a une véritable saison propre au TCE.
On le voit bien encore aujourd'hui.
Voilà, plus que jamais même. Et ce serait peut-être ça. Néanmoins, le théâtre reste assez mixte dans son fonctionnement. Ça rend d'ailleurs la chose parfois compliquée à comprendre pour les gens, puisqu'il y a d'une part les productions maison, Théâtre des Champs-Élysées, et ce qu'apportent les producteurs privés. Et il y en a pas mal qui sont presque, j'allais dire, chez eux au Théâtre des Champs-Élysées. On peut citer Jeannine Rose, par exemple, qui a amené le quatuor Alban Berg ou des...
Sokolov,
le pianiste. André Furneaux et son piano 4 étoiles, par exemple. Tous les récitals Brendel, Pollini ont été produits par ces producteurs privés, mais accueillis au Théâtre des Champs-Élysées, si bien qu'ils font eux-mêmes partie de l'histoire du théâtre. Mais voilà, on ne mesure pas toujours ce qui relève de l'un et de l'autre.
Oui. La création qui a justement marqué l'histoire du théâtre, c'est toujours d'actualité aujourd'hui au TCE ?
Un peu moins, mais ça, j'allais dire malheureusement, comme partout, les axes de programmation se sont déplacés aujourd'hui plutôt vers le répertoire que vers la création, qui a malheureusement tendance à être plutôt cantonné à des festivals spécialisés ou des salles spécialisées. Et on peut effectivement regretter, moi qui aime beaucoup la musique contemporaine, qu'elle n'ait pas assez sa place au Théâtre des Champs-Élysées, mais je vous dirais la même chose de la salle Pleyel, par exemple.
Oui, la dernière grande création au Théâtre des Champs-Élysées, c'est peut-être quoi le cycle de Dutilleux, Le Temps l'Horloge avec Ozawa.
Oui. Grand moment.
Un fidèle du Théâtre des Champs-Élysées. Il y a des chefs dont vous parlez, hein, Christian Merlin. Cluytens, par exemple, c'est peut-être celui qui a le plus dirigé
aux Champs-Élysées. Parce que Cluytens, en fait, il faut dire que le Théâtre des Champs-Élysées, outre les orchestres accueillis, comme le Philharmonique de Vienne, qui vient à peu près deux ou trois fois par an, le Théâtre des Champs-Élysées a régulièrement été le lieu de résidence d'un orchestre, en particulier l'Orchestre National, à l'époque de la RTF, puis de l'ORTF, puis de France, c'est celui que nous connaissons aujourd'hui sous ce nom-là. Et de fait, Cluytens était chef de la Société des concerts du Conservatoire, qui donnait ses concerts au TCE, comme on dit dans notre jargon, et très fidèle du National. Chef extrêmement populaire à Paris, très aimé, qui a fait tous les programmes possibles. Musique française, musique allemande, un chef considérable.
D'ailleurs. Un mot sur les travaux d'acoustique qu'on a entrepris il y a quelques années. On a enlevé cette moquette, qui n'était pas là, la création, pour retrouver l'acoustique originelle du théâtre.
En effet, à l'origine, le théâtre avait un parquet. Oui. Et dans les années 50, on l'a recouvert, comme ça a été dans beaucoup de salles, on a recouvert tout cela de moquettes. Et c'est vrai que l'acoustique était à ce moment-là pas satisfaisante. Et on a entrepris un certain nombre de travaux. Alors, enlever la moquette d'une part, mais aussi enlever tout un revêtement qui avait été mis sur tout l'entourage de la scène et qui était un formidable absorbeur de son.
Ouais.
Et également tout un travail qui a été fait sur les parois où on a enlevé un certain nombre de tissus qui, eux aussi, jouaient un rôle d'absorbeur terrible.
Mmh, mmh. Est-ce que, pour terminer, parce que l'émission passe extrêmement vite, c'est la saison du centenaire cette année qu'a imaginé Michel Franck, avec des œuvres, on l'a entendu, programmées durant la première saison. Est-ce que la Caisse des dépôts, qui est le mécène principal du Théâtre des Champs-Élysées, donne une ligne artistique pour que ce fil rouge artistique qu'on trouve à chaque époque, à chaque année, chaque saison du Théâtre des Champs-Élysées soit perpétué, pour que l'entité artistique du théâtre soit perpétuée?
Non, là, c'est vraiment la volonté des directeurs successifs, que ce soit celle d'Alain Durel dans son temps, celle de Dominique Meyer ensuite et celle aujourd'hui de
Michel Franck. Accordait, lui, une place prépondérante au baroque. C'est là, à ce moment-là, sous le règne de...
Ça a commencé avec Alain Durel, puisque le grand cycle Lully a commencé avec Alain Durel, répertoire qui a été développé ensuite par Dominique Meyer, et que Michel Franck influe un petit peu aujourd'hui. Mais il n'y a pas de ligne artistique de la Caisse des dépôts, il y a un accompagnement... Mais il n'y a pas de ligne artistique.
Alors, je signale que ce livre qui s'appelle, je le rappelle, « Trois scènes et une formidable aventure » se trouve en librairie. On le trouve également en vente au Théâtre des Champs-Élysées.
Au théâtre,
et,
sur place.
On trouve également au théâtre le Sacre du Printemps, le premier Sacre du Printemps de Pierre Boulez, donné en 1963. L'émission est déjà terminée. J'espère que vous avez au moins envie de découvrir ce livre et peut-être d'aller directement au Théâtre des Champs-Élysées. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, à Éric Lancet, Mathieu Leroux, Nelly Portal pour la préparation de l'émission. Bonne soirée, à samedi prochain.